Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous à travers nos radios partenaires. Nous sommes lundi 15 juin 2015. Bienvenue donc à cette émission. Une émission qui réfléchit sur la neutralisation présumée donc de Mokhtar Belmokhtar, annonce faite par les autorités libyennes. Pour donc cette élimination, nous allons voir tout cela avec nos invités, Serge Daniel, journaliste écrivain, Ousmane Cornio, spécialiste des questions sécuritaires, et Siaka Tchébile Doumbia, analyste politique. Je suis Famoussa Sidibé, nous vous me direz, est à la technique. Selon plusieurs médias, l'information est à prendre avec précaution. Ce n'est pas la première fois que Mokhtar Belmokhtar est annoncé mort. L'annonce la plus récente date d'avril 2013. Annonce faite donc par le Tchad qui affirmait l'avoir éliminé lors d'une opération de ratissage dans le nord du Mali, aux côtés donc des troupes de l'opération Serval. Cette fois-ci, c'est les autorités libyennes qui disent que le chef djihadiste a donc été éliminé par un raid aérien de l'armée américaine, donc à 160 km à l'ouest de Benghazi en Libye. Par ailleurs, le Pentagone a confirmé le raid aérien en évoquant une attaque menée à l'aide d'avions F-15. Nous continuons à évaluer les résultats de l'opération et fournirons plus de précisions de manière appropriée. A prudemment laissé donc, a déclaré donc ce dimanche soir le colonel Steve Warren, un porte-parole de la défense américaine. Alors nous allons voir avec nos invités. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Aujourd'hui, qui est Mokhtar Belmokhtar dont la tête valait 5 millions de dollars donc aux yeux des États-Unis, Serge Daniel?
Alors il faut savoir que c'est un Algérien. Il est né en 1972, quartier populaire dans une ville algérienne, mais très tôt il a fréquenté des mosquées, il s'est radicalisé, c'est celui qu'on appelle, il fait partie de ceux qu'on appelle les Afghansi, c'est-à-dire que ce sont des gens, c'est-à-dire des djihadistes originaires d'Afrique du Nord, qui ont combattu en Afghanistan. Il était en Afghanistan dans les années 90, vous savez que déjà en 1988, on savait que les soviétiques allaient se retirer d'Afghanistan. Donc il s'est poser la question de savoir ce qu'allaient devenir tous ces combattants venus de tous les pays. Et il y avait deux tendances au sein d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il y avait un doctrinaire du nom d'Abdullah Azam, c'est un universitaire jordanien, qui voulait former un groupe, c'est-à-dire une espèce de groupe de combattants pour aller imposer le djihad dans des pays comme l'Égypte, etc. Et il y avait une deuxième tendance dirigée par Oussama Ben Laden, qui demandait plutôt à tous les djihadistes qui sont venus combattre en Afghanistan de retourner chez eux et d'imposer le djihad national. C'est comme ça que Belmokhtar, il a perdu un œil en Afghanistan. Il s'est appelé Borgne. À partir de ce moment, on l'a appelé et on surnommait le Borgne. Il est donc revenu en Algérie parce qu'il fait partie de cette tendance-là. En Algérie, il intègre le GIA. Après, ça a été le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Donc, il s'est métastasé vers le nord du Mali, qui est le sud de l'Algérie. Et là, il a commencé à s'opposer d'abord à Dougdel, le patron d'ACMI. Ensuite, il a commencé à s'opposer à celui qui est mort il y a pas longtemps. Celui qui a été tué par les Français dès le début de l'opération, par les Tchadiens également. J'oublie, vous voyez, on peut oublier. Abou Zeid. Voilà. Et donc, il s'est imposé comme un important représentant du djihad en Afrique du Nord, dans le désert malien, sans vous oublier. Ça, c'est capital. Ça, on va suivre après, on va en reparler probablement. Parce qu'il a compris que pour rester dans le nord du Mali, il fallait avoir des complicités. Donc, il s'est marié, notamment à une malienne. Il a eu un enfant qui s'appelle Oussama comme Oussama Ben Laden. Brièvement, voilà ce que je peux dire de lui.
D'accord. Merci beaucoup, Serge Daniel. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain. Alors, Ousmane Cornio, quel peut être le poids de cet homme, de cette figure du terrorisme au Mali?
Oui, je crois que pour enchérir avec ce que Serge Daniel a dit, c'est que c'est vraiment, il est un historien. Il n'est pas seulement un écrivain, il est un historien. Et on apprend beaucoup de cette histoire-là. Mais il faut reconnaître qu'au Mali, Ben Laden, on l'a connu à partir de, des enlèvements. À partir des enlèvements et d'otages, des prises d'otages.
Vous voulez dire Ben Mokhtar?
Oui, oui. Mmh. Et qu'il a orchestré dans le Sahel, donc principalement au Mali. Mmh. Il y a beaucoup d'otages qui ont été arrêtés, qui ont été enlevés, qui ont été ensuite relâchés. Il avait sa marque là-dedans. Et je crois que après la débâcle, je sais pas, après la mort de Kadhafi, et après la débâcle aussi des djihadistes au Mali, je crois qu'il a essayé plus ou moins de mieux se positionner en Libye. Mmh. Il est devenu un acteur incontournable de la Libye, sachant que la Libye aujourd'hui est l'épicentre de la déstabilisation de toute la sous-région. Mmh. Il est un acteur important. Et je crois que l'élimination d'un tel acteur en Libye sera bénéfique et pour la Libye et pour toute la région. Mmh.
Alors aujourd'hui, c'est les autorités libyennes donc qui annoncent cette opération américaine. Est-ce que c'était un trop gros morceau pour la France, pour l'opération Barkhane, et que les Américains en ont fait une affaire personnelle avec vous, Siaka Etcheblen Doumbia?
Ok, merci. Je crois que pour ce qui concerne le cas Mokhtar Ben Mokhtar, c'est vrai, c'était un homme très recherché. Il était recherché par toute la communauté internationale. Eh bien, je crois qu'il y a un niveau de renseignement qui joue ici. La France recherchait ce type, les Américains également le recherchaient. Maintenant, puisque c'est les Américains qui fournirent les renseignements aux Français, nous ne pouvons pas dire que c'était un gros Français qui a été pris par les Américains, un gros morceau français qui a été pris par les Américains, à mon avis.
Alors, Serge Daniel, aujourd'hui, tous les médias appellent à la prudence. Est-ce qu'on peut dire avec certitude que Ben Mokhtar est mort dans ce raid?
Je le crois qu'on ne peut pas le dire avec certitude. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas la première fois qu'on annonce sa mort. Mais la particularité cette fois-ci, c'est qu'on l'a localisé pour une fois. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les Américains parlent moins que les Français. Les Américains agissent. Les Français vont vous dire, oui, nous allons intervenir dans le désert libyen. Non. Les Américains, ce n'est pas cela. Eux, ils agissent. En plus, à partir du moment où Ben Mokhtar a assassiné des citoyens américains, à vie, il est recherché. Donc, les Américains disent, c'est lui qui était visé. Donc, pour la première fois, la certitude, à mon avis, qu'on a, c'est qu'il a été localisé. Il a été localisé dans le désert malien, vous le disiez tout à l'heure, c'est très important ce que vous disiez. À mon avis, c'est qu'il veut imposer le djihad dans la sous-région. Il n'a pas beaucoup commis d'attentats dans le nord du Mali. C'est-à-dire que les otages de Ben Mokhtar dans le nord du Mali, il a pris le nord du Mali comme une base arrière pour agir en Algérie, vous l'avez vu sur le site gazier. Il a enlevé, vous vous souvenez, deux Canadiens, Louis Gay et Robert Fuller. Il les a enlevés au Niger. Il les a ramenés au nord du Mali parce que le nord du Mali était devenu à un moment un entrepôt d'otages. Il a enlevé des otages espagnols en Mauritanie pour les ramener au nord du Mali. Donc c'était plutôt sa base, le nord du Mali. Est-ce que vous voyez? Donc en l'état actuel des choses, ce qui est intéressant, c'est de le localiser dans le désert libyen, ce qui prouve effectivement que pour lui, le djihad, ce n'est pas seulement au Mali, le djihad, c'est au Sahel, le djihad, c'est en Libye, le djihad, c'est un peu partout. C'est-à-dire, je répète encore une fois, c'est un Afghan si. C'est comme ça qu'on appelle les combattants de l'Afrique du Nord qui ont combattu en Afghanistan aux côtés des troupes à l'époque contre les soviétiques. Et que aujourd'hui, on aura le temps probablement d'en parler. Quelles sont les répercussions? S'il est mort, c'est un gros coup. C'est un très très gros coup à mon avis, mais ça sera pas la fin du djihad, parce que c'est un ennemi, il y a une organisation, il y a ce qu'ils appellent la choura, c'est-à-dire une assemblée consultative, il y a le recrutement, il y a la formation. Alors ils ont décapité probablement un mouvement, la tête d'un mouvement, le bras d'un mouvement, mais ils n'ont pas à mon avis décapité tout le djihad, toute cette bande d'islamistes qui pullulent dans le nord du Mali.
Merci beaucoup Serge Daniel. Alors Ousmane Cornio, est-ce que l'argent a été un élément déterminant dans la neutralisation de Mokhtar Ben Mokhtar, puisque sa tête avait été mise à prix 5 millions de dollars?
Non, je ne pense pas. Je pense pas. L'argent n'a pas de place là. Si l'argent pouvait agir, je crois qu'on les aurait tous arrêtés depuis longtemps. C'est qu'en fait, il y a peut-être l'envie de l'éliminer. Moi, je crois que quand il était au Mali, la population malienne, c'est-à-dire la communauté, n'avait aucune envie de l'éliminer. La musique faisait leur affaire. Mais il faut reconnaître que Mokhtar Ben Mokhtar en Libye était haï par les Libyens. Et je crois que les premières personnes à annoncer sa mort, c'est les Libyens. Et ils l'ont annoncé avec joie, comme si c'était une épine qui est sortie de leur pied. avant même que les Américains l'annoncent, parce que les Américains n'ont pas annoncé avec certitude. Ceux qui l'ont annoncé avec certitude sont les Libyens et qui l'ont fait. Donc, il fait que je crois que ce n'est pas un problème d'argent. En Libye, ce n'est pas un problème d'argent, avec tous les persécutions.
C'était vraiment. Il y avait des moyens de traquer, à mon avis.
Traquer, voilà. Mais c'est pour moi, c'est un problème de nuisance. Parce qu'aujourd'hui, la Libye est complètement déstabilisée. Et tous ceux qui cherchent des voies et moyens à stabiliser indexent des acteurs comme Ben Mokhtar qui alimentent vraiment cette déstabilisation.
Alors, jusque-là, les États-Unis étaient beaucoup attendus par rapport à la neutralisation des chefs djihadistes en Afrique, notamment. Aujourd'hui, avec cette annonce, est-ce que les États-Unis reprennent la main, Siaka?
À mon avis, je crois que les États-Unis n'ont jamais laissé la main dans la partie septentrionale de notre pays, y compris dans tout le Sahara. C'est que c'est une question d'organisation et de coopération entre les États-Unis et ceux qui coopèrent sur le terrain. Les États-Unis, comme il dit tout à l'heure, fournissent des informations aux forces qui sont présentes sur le terrain et si besoin en est, ils opèrent directement par leurs propres moyens. Et donc, dire que les États-Unis reprennent la main aujourd'hui, à mon avis, à travers l'Africom, les États-Unis n'ont jamais laissé le Sahara comme tel. Ils ont toujours la main sur le Sahara.
Ce qui est quand même frappant, c'est qu'on se rend compte que dans quasiment toutes les opérations de maintien de la paix, on n'a quasiment pas d'Américains. C'est-à-dire qu'on n'a pas de casque bleu de nationalité américaine. Alors qu'on a des Français, on a des Allemands, on a des Vénézuéliens. Parce que l'American Way of Life est quelque chose de particulier. Leur armée n'a pas à être sous commandement d'une autre armée. Donc ils agissent relativement seuls, mais avec une coopération avec la France, des pays sur le terrain. Mais quand ils veulent agir, je le disais tout à l'heure, c'était une boutade, ils parlent très peu, les Américains. Si vous êtes dans l'œil de cyclone des Américains, s'ils avaient localisé Abu Zeid ou Ben Mokhtar sur le territoire malien, je suis sûr qu'ils auraient frappé. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a de l'efficacité dans ce qu'ils font. Mais voir les troupes américaines sur le terrain, par exemple, combattre aux côtés des autres, je ne les vois pas, moi, personnellement, adopter cette stratégie. Ce n'est pas l'American Way of Life. Quoi.
D'accord. Alors, Serge Daniel, cette question vous est destinée aujourd'hui. Quel avenir prévoir pour le groupe Al-Mourabitoun, puisque Mokhtar avait fusionné son mouvement, les signateurs par le sang, avec cette organisation, le Mujahou, pour former donc Al-Mourabitoun en 2013. Et que vaut aujourd'hui Al-Mourabitoun?
Moi, je pense que dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que l'aile du Mujahou dans Al-Mourabitoun va prendre le dessus. Ils vont prendre le dessus parce que eux, ils sont sur le terrain et que Ben Mokhtar, on a quasiment la confirmation qu'il n'est plus dans le nord du Mali, alors que c'est le terrain qui commence. Donc, l'aile du Mujahou va prendre le dessus, mais sans oublier que eux, ils se réclament de l'État islamique et non de Al-Qaïda. Ça, c'est très important parce qu'il y a une différence entre les deux. La différence est d'abord dans la stratégie médiatique. Vous avez vu, Al-Qaïda au Maghreb islamique n'a jamais brûlé des journalistes, par exemple, alors que l'État islamique le fait. Il y a une violence de l'État islamique qu'on ne retrouve pas forcément chez Al-Qaïda au Maghreb islamique. Sans oublier que le Mujahou est allié quand même à Boko Haram du Nigeria, Boko Haram, qui a fait également allégeance à l'État islamique. Donc je pense que dans un premier temps, il sera en perte de vitesse sur le terrain. Ensuite, il est quand même parti, à mon avis, avec des secrets. L'argent. Parce qu'il a eu énormément d'argent avec la libération des rançons. Je parlais des otages espagnols, des otages allemands, des otages également canadiens. C'est énormément d'argent. Or, Ben Mokhtar, c'est quelqu'un absolument organisé. C'était l'un des combattants les plus redoutables parmi les djihadistes. Donc, il est parti avec des secrets. Il est parti avec la clé des armes, parce que chez eux, dans le désert, ce qui se passe, c'est qu'ils enfouissent les armes, de l'argent, dans le sous-sol. Et il y a un code pour récupérer tout ça. Il y a un code de GPS pour récupérer tout ça. Donc, c'est une perte pour son mouvement. Mais moi, je vois quelqu'un qui s'appelle Belkacem Zaoudi, qui peut paraître désormais, à mon avis, je peux me tromper, qui peut prendre le relais. Merci. Mais dans un premier temps, sur le terrain, ce qu'on va constater, c'est que celui qui va parler le plus au nom d'Al-Mourabitoun, ce sera la branche du
Mujahou. Alors, nous allons observer, merci beaucoup pour ces précisions, nous allons observer quelques secondes de pause avant de reprendre le cours de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter pour si vous voulez donc réagir à cette émission, vous faites tout simplement un tour sur notre site web www.studiotamani.org. Le grand dialogue d'aujourd'hui réfléchit sur la mort présumée donc de Mokhtar Belmokhtar, chef djihadiste donc d'Al-Mourabitoun qui était basé en Libye. Alors nous sommes à la deuxième partie, l'efficacité de la lutte antiterroriste donc au Sahel. Comment peut-on évaluer l'efficacité de cette lutte au Mali, spécifiquement Ousmane Kornio?
Oui, je crois quand même que l'efficacité se mesure par les résultats. Et si on constate aujourd'hui que les deux chefs, je veux dire les bras armés de Yad ont été éliminés, si Mokhtar Belmokhtar est éliminé, donc je crois qu'avec un certain nombre de résultats, on peut se dire que ce soit du côté de la France ou que ce soit du côté des Américains, en tout cas la coalition contre le djihadisme est en train de porter fruit. Maintenant, vous savez que c'est le serpent. On coupe la tête, il y a une autre tête qui sort. Il s'agit de persévérer et ils vont adapter leur stratégie aussi à la stratégie de lutte menée par les Américains et puis les Français et Barkhane. Mais je crois et je suis sûr quand même qu'il y a eu de gros coups qui ont été frappés, des résultats ont été obtenus et je crois que ça commence à faire réfléchir. La peur a changé de camp. Aujourd'hui, la peur est du camp des djihadistes.
Vous anticipez une de mes questions donc sur cette peur qui change de camp. Merci beaucoup Ousmane Kornio. Alors Siaka Tchebele Doumbia, vous êtes analyste politique. Aujourd'hui, on constate que les partenariats entre les pays du Sahel se met du temps avant de se mettre en place. Est-ce que le renseignement de ces pays-là, les renseignements ont été utiles pour une telle élimination?
Les renseignements pour l'élimination de Mokhtar Belmokhtar, il est évident que les Américains se sont misés sur leurs propres renseignements pour l'attaquer. Serge l'a dit tout à l'heure, il est sûr que Mokhtar Belmokhtar a été identifié. Ça, donc, ils se sont misés sur leurs propres renseignements. Maintenant, quant aux renseignements des États
du Sahel,
là, je crois que c'est une question de moyens. Ils n'ont pas suffisamment de moyens de renseignement pour pousser les informations jusqu'à un certain niveau pour faire de telles opérations.
Alors Serge, par rapport à cette collaboration des pays du Sahel, que vaut aujourd'hui cette collaboration?
Il y a quand même des résultats, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a eu la confirmation de Belmokhtar, mais vous avez quand même dans le nord du Mali Doulébil, c'était le numéro 2 de Belmokhtar. Il avait été tué il y a quelques mois. Vous avez, comment il s'appelle, dans Sardine, qui a été tué également, le fameux Abdelkrim qui a été tué. Vous avez Inawilat, c'est quelque chose de très important, il a été tué, c'est un Touareg qui faisait la navette entre les ravisseurs et les médiateurs, ça c'est quand même important. Il y a des résultats, mais les résultats, moi je vous le dis tout de suite, sont incomplets. Et ça me fait plaisir de vous rencontrer ici, parce que la dernière fois, vous étiez plutôt partisan, je crois que c'était vous.
Les deux autres débatteurs.
Voilà, vous disiez qu'il fallait signer les accords, et une fois on aurait signé les accords, ceux qui n'allaient pas signer les accords, allaient les combattre. Mais non, est-ce que vous voyez? Je suis persuadé qu'il faut mener une lutte globale. Le problème du nord du Mali, vous avez cette rébellion-là. Mais de notre côté, vous avez le trafic de drogue. Il y a moins de 3 mois, des spécialistes vous diront qu'il y a des avions qui ont largué de la cocaïne encore dans le nord du Mali, si vous voulez. Donc vous ne pouvez pas lutter contre les terroristes et laisser les trafiquants de drogue. Donc c'est une lutte globale, qui sera globale ou qui ne le sera pas. Il faut une unité de lutte permanente, à mon avis, très alerte, pour pouvoir lutter contre tous ces trafics, sinon on ne s'en sortira pas. Parce qu'il y a désormais, on est sûr qu'il y a une passerelle claire et nette entre les trafiquants de drogue et les terroristes, par exemple. Si vous prenez un seul exemple, un pick-up bourré de cocaïne, c'est l'équivalent en termes de revenus de 40 pick-up bourrés de cannabis. Ce qui fait que les gens, au lieu de faire le trafic de cannabis, préfèrent désormais faire le trafic de cocaïne. Donc c'est cela. Il y a des résultats, mais il faut aller plus loin en traquant non seulement les djihadistes, mais les trafiquants d'armes et puis les trafiquants de drogue.
Sur ce point, en fait, quand on suit le problème qui se passe à Menaka, quand la CMA tient à Menaka, en réalité, ce n'est pas pour Menaka. Ce qu'on sait, c'est que en tout cas, l'autoroute de la drogue passe par le Mali. Et dans les autoroutes, il y a ce qu'on appelle les carrefours. Et soit bien. Menaka est un carrefour. La drogue qui vient de l'Ouest, la drogue qui vient du Sud du Nigeria et la drogue qui remonte vers l'Algérie ou la Libye. Le dispatching se fait à partir de Menaka. Et quand la CMA perd Menaka, c'est comme si on a perdu un rond-point, un ancrage très important du système d'écoulement de la drogue. Voilà pourquoi ils tiennent à Menaka. Ils ne tiennent pas à Menaka pour le faire seulement qu'ils ont été chassés de Menaka et que on a brûlé le cessez-le-feu. Non, ils tiennent à garantir la circulation et le dispatching de la drogue à travers les différents créneaux.
Vous anticipez donc la troisième partie de cette émission consacrée au lien entre donc l'accord de paix et la situation sur le terrain. Alors, les attaques terroristes à Hamoto prouvent-elles que les groupes djihadistes sont affaiblis aujourd'hui, Siaka?
Affaiblis, mais pas trop affaibli à mon avis, parce que c'est aussi un mode opératoire pour ces gens-là. Quand vous parvenez à les faire disperser, à disperser les rangs, eh bien, il y a une nouvelle forme d'organisation qui consiste à aller individuellement et à faire ces attaques-là. Et donc, dire qu'aujourd'hui, ils sont affaiblis, oui, ils n'ont pas les moyens de se regrouper et de faire la guerre conventionnelle, comme nous le savons, mais aujourd'hui, ils sont capables aussi de porter des nuisances à notre au système sud. Sécuritaire.
Alors, justement, sur cette question du Sud, ces attaques au Sud, Serge Daniel, comment est-ce qu'on peut les définir aujourd'hui?
C'est un peu tôt. Moi, je suis très réservé sur les attaques de ces cassons. À mon avis, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Mais il doit avoir de la dawa, donc une secte islamiste. Il doit avoir probablement d'Acme. Vous savez, entre le Misseni, par exemple, Misseni, c'est à 20 km de la frontière ivoirienne. Je connais un peu cette zone-là. Il y a un fleuve qu'on appelle le Bagoué. Mais quand vous traversez le Bagoué, on est au courant, mais on ne les a pas vus traverser le Bagoué. D'où est-ce qu'ils viennent? Comment ça s'est passé? Ils ont attaqué la nuit, ils sont repartis la nuit. Ils ont planté un drapeau, qui est le drapeau dans Sardine. Mais est-ce que c'est en Sardine? Moi, je ne le sais pas. Je suis un peu troublé, je vous le dis, par cette attaque-là, parce que on n'a pas de preuves. Même quand vous discutez avec les sécuritaires, ils vous disent, on ne peut pas vous dire exactement c'est telle personne. Voilà.
Alors, que dire donc du démantèlement du réseau qui a eu dans la forêt du Mandé? Est-ce que tout ça est lié?
On n'a pas arrêté les gens. Quand vous parlez de forêt du Mandé, c'est ici. C'est à une vingtaine de kilomètres de Bamako. Mais ce dont je vous parle, c'est passe à 400 à 500 kilomètres de Bamako. Donc je veux dire que le danger est permanent. Cela, c'est évident. Au nord, on a des problèmes. Au centre, il y a des problèmes. Vous le savez, j'ai entendu dans votre journal, au cours de votre journal tout à l'heure, à Djéné, au carrefour de Djéné, il y a eu une attaque. Évidemment, à Bamako, il y a eu des attaques. Donc, le danger est permanent, mais il faut ne pas se tromper d'identité. Si vous vous trompez sur l'identité des assaillants, vous avez tout faux. Alors, et pour le moment, moi, je suis un peu réservé.
Par rapport aux identités?
À Sikasso, surtout. Je sais que ce n'est pas...
Est-ce que cela peut être...
C'est un acte terroriste, c'est ce qu'on appelle un acte terroriste. Mais je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'éléments. D'après mes informations, je ne peux pas vous dire exactement c'est telle personne qui a fait le coup. Ce sont des djihadistes, on peut les appeler des djihadistes, des islamistes si vous voulez. Mais exactement la nature de ces djihadistes-là, moi, pour le moment, je suis un peu handicapé.
Alors, est-ce que quelques individus radicalisés peuvent perpétrer de tels actes?
Tout à fait, parce que le principe de l'autoradicalisation, vous savez, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller dans un camp d'entraînement pour être autoradicalisé. Quand vous allez dans certaines mosquées, par exemple, à l'époque c'était la dawa, vous pouvez être radicalisé. Lorsque vous entendez des prêches qui ne sont pas des prêcheurs maliens mais qui viennent de l'étranger, vous pouvez être radicalisé. Ça peut être l'œuvre de personnes radicalisées.
Alors, Siaka veut dire quelque chose.
Je comprends, Sir Daniel, quand il émet des réserves sur ces attaques-là, mais moi, je fais
l'identité.
Deux constats. L'identité sur ces attaques. Je fais deux constats. D'abord, le mode opératoire que j'ai parlé tout à l'heure. C'est vrai, n'importe qui peut également faire des attentats de cette nature-là. Mais lorsqu'il porte des flambeaux de langue sardine, et lorsque j'admets que il est sur l'agenda de la Mujahou, toute la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, je me dis que si on me dit qu'ils sont attaqués jusqu'à Sikasso, même en Côte d'Ivoire, rien n'est étonnant.
Mais à votre avis, qui a fait le coup de Misseni? Si je veux prendre votre place.
La question reste aujourd'hui, posée.
Aujourd'hui, nous n'avons pas... Une seconde, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire avec précision qui l'a fait, mais il est évident que les modes opératoires nous poussent à l'imputer à celui qui d'habitude font ces attaques-là.
Alors, on me dit que c'est un certain Sanogo ou Samake qui a été Moussa Sanogo.
Enfin, il faut préciser quel Sanogo. Il y a plusieurs Sanogo.
Okay. Je rejoins Serge Daniel. J'ai toujours été réservé sur l'identité de ces attaques, même dans le Massina. quand j'entends dire que ce sont des hommes de Amadou Koufa, que je connais très bien, parce qu'on est du même village, de la même communauté, et je ne suis pas sûr. Parce que, en fait, derrière.
C'est quand même un extrémiste, lui. Hein.
Je sais qu'il est extrémiste. Mais après tout ce qui s'est passé, comment a pu-il se réconcilier pour mener ces attaques-là? Jusqu'à présent, moi, je pose une interrogation. Tout ce que je sais, c'est qu'en fait, que depuis 2011-2012, les événements de 2012-2011 sont arrivés sur un fond de mécontentement général et de crise sociale interne. Entre des communautés. Et je suis sûr que certaines communautés ou certaines personnes pourraient utiliser
le chaos
actuel pour essayer de régler des comptes. Et je suis sûr que certaines attaques sont des règlements de comptes.
D'accord.
Alors, fait que je me réserve, chaque fois qu'il y a une attaque, de dire oh, c'est tel groupe. Je reste jusqu'à ce qu'on ait des enquêtes et qu'on puisse prouver que c'est telle personne. Pour moi, même celui de Sikasso, ça peut être des bandits, parce que si on connaît cette zone-là, c'est une zone aurifère, on sait qu'il y a des altercations entre les groupes de part et d'autre. On sait qu'il y a des problèmes fonciers dans cette zone-là. Et est-ce que c'est pas un règlement de compte? Mais quant à dire qu'il y a un certain Moussa Sanogo qui est venu de Sikasso...
Amadou Sanogo, vous avez dit
ou... Non, Moussa Sanogo. Moussa... ne me fais pas dire ce que... Et c'est un Moussa Sanogo qui s'est radicalisé et qui est venu attaquer. Je me pose la question pourquoi.
D'accord.
C'est ce pourquoi qui fait que je doute encore, je me réserve sur l'identité de ceux qui ont attaqué.
Merci
et beaucoup. Les motifs surtout.
Merci beaucoup Ousmane Kornio. Alors Serge Daniel, comment est-ce que ce genre d'attaque improvisée au sud dans les capitales régionales peuvent être financées par les branches mères?
Mais ça c'est facile, c'est-à-dire qu'à partir du moment, nous avons deux choses. La révolution des 30 dernières années, c'est la puce de téléphone, c'est le portable. Avec ça, vous pouvez tout faire. On peut vous écouter, mais si vous auto-radicalisez, on peut vous envoyer désormais de l'argent par téléphone. C'est-à-dire que vous pouvez commettre un attentat grâce à un portable. On vous envoie de l'argent par téléphone, vous pouvez poser une bombe par téléphone, vous pouvez actionner la bombe que vous posez, vous avez vu, par téléphone. Donc il faut tenir compte de tout cela. Il suffit tout simplement de s'auto-radicaliser. Mais à la décharge des forces de sécurité, lorsque le renfort est venu de Sikasso, vous avez vu, ils sont partis. En France, il y a eu récemment la tragédie de Charlie Hebdo. Vous ne pouvez pas éviter ce genre de choses. Mais le problème, ce n'est pas de ne pas pouvoir éviter ce genre de choses, c'est de pouvoir arrêter les assaillants. Il est inadmissible que nos forces de sécurité n'arrivent pas à chaque fois qu'il y a une opération de ce genre à ne pas arrêter les assaillants. Ça, c'est grave, à mon avis.
Siaka.
Et donc, à mon avis, c'est grave que nos forces de sécurité ne parviennent pas à mettre la main sur ces gens-là. La seule raison pour l'instant, c'est de réorganiser nos dispositifs sécuritaires à la sortie et à l'entrée des villes. Quand vous avez un seul gendarme qui est arrêté, ou bien deux gendarmes qui sont arrêtés en avec
action.
la main, et bien quelqu'un peut venir en moto, tirer sur ces gens-là et qui peut venir au secours. Il faut réorganiser les systèmes de sécurité, c'est-à-dire la positionnement même des hommes, il faut revoir ça. Si aujourd'hui vous venez en moto, vous tirez sur un gendarme, quelqu'un d'autre est là pour également vous abattre, et bien ça peut quand même permettre de décourager une telle pratique.
Alors,
mais si cela n'est pas fait, des attaques qui sont perpétrées à longueur de journée, personne n'est arrêté, et qu'est-ce qui peut décourager un tel système? Absolument rien. Tant qu'on ne les arrête pas, rien ne peut décourager le système. Donc il faut s'attendre à une continuité du système, mais il faut réorganiser des dispositifs sécuritaires, des entrées et des sorties des agglomérations.
Une pause et nous nous retrouvons.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Merci de nous rester fidèles. Cette émission réfléchit sur la mort présumée de Mokhtar Belmokhtar, chef djihadiste donc du groupe Al-Mourabitoun. Nous sommes à la troisième partie de cette émission qui tente de décrypter donc le lien qu'il y a aujourd'hui entre la signature de l'accord de paix le 20 juin prochain par la coordination des mouvements armés de l'Azawad et la situation sécuritaire sur le terrain. Alors nous allons voir avec nos
invités. S'il est possible aujourd'hui, après donc la signature annoncée par la CEMA de l'accord de paix le 20 juin prochain, s'il y a un lien entre cette signature et la situation sécuritaire et comment distinguer aujourd'hui les combattants rebelles des combattants terroristes sur le terrain, Ousmane Cornéo.
Oui, je l'ai dit plusieurs fois sur cette antenne qu'en fait que la seule façon de pouvoir mettre fin à ces actes terroristes après la signature, c'est de créer des conditions d'absorption de ces jeunes. Si ces jeunes qui font du terrorisme, qui sont à la solde des terroristes, des narcotrafiquants, savent que en adhérant au processus d'intégration, en ayant des postes, en accédant à des conditions qui permettent d'assurer leur survie, je crois qu'ils vont se détourner un peu de ces actes terroristes. Parce qu'en fait, ces actes terroristes-là, c'est uniquement sur des causes économiques. Moi, je crois qu'il faut aller sur le volet économique. C'est-à-dire sur les conditions à proposer pour absorber
les combattants,
intéresser les combattants, pour les détourner, et ce bien, de ceux qui les proposent de l'argent et afin de faire des actes terroristes. Parce que pour moi, je crois que tous ces actes terroristes-là, la plupart, c'est sur le front économique. Et c'est là que moi, je crois que le gouvernement doit mettre l'effort. C'est-à-dire, il ne faut pas miser sur les moyens. Il faut faire tout pour pouvoir résorber le chômage, pour pouvoir détourner les jeunes de cette économie terroriste et pour pouvoir assurer leur garantie de survie. Alors, on pourra voir peut-être ces jeunes-là se détourner. Parce qu'en fait, toutes ces actions-là ne sont pas menées par Ben Mokhtar. Ce sont des jeunes, ce n'est pas mené par Yad. Ce sont des jeunes qui sont instrumentalisés, qui sont payés à la solde pour venir commettre ces actes. Je crois qu'il faut chercher à absorber ces jeunes-là à travers des mesures incitatives.
D'accord. Alors, est-ce que les groupes terroristes vont permettre que cette signature annoncée par la CEMA puisse se faire, Siaka?
Eh bien, ils n'ont pas le choix. À mon avis, ils n'ont pas le choix. Les groupes terroristes n'ont pas le choix, c'est pas eux qui décident. Eh bien, les rapports de force sur le terrain peuvent quand même peuvent tourner un peu à leur, mais ils n'ont pas le choix. C'est qu'il y a une pression qui est là sur la CEMA et qui pousse à la CEMA à signer cet accord-là. Mais une chose que je dois revenir sur ça. Aujourd'hui, qui est terroriste, qui n'est pas, qui il faut combattre, qui il ne faut pas combattre, qui. Aujourd'hui, il faut assainir ce territoire malien.
Comment assainir?
Il faut maintenant définir le rôle. Qui doit assurer la sécurité? Aujourd'hui, l'armée malienne est là pour la sécurité. Les forces internationales sont là pour la sécurité. C'est à eux de maintenir la sécurité au nord. Eh bien, parallèlement à ces forces-là, tous les autres groupes, la CEMA, l'Anxardine, le Moujao, tous ceux qui ne s'inscrivent pas, je ne parle même pas de Moujao, qu'on soit qui sont classés parmi des groupes terroristes, mais la CEMA, aujourd'hui, a décidé de s'inscrire dans le cadre du processus de la paix. Tant mieux. S'ils ne faisaient pas, eh bien, ils devraient être considérés au même titre que ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'il y a un impératif aujourd'hui d'assainir ces vastes territoires. Il faut chercher, il faut éviter l'ambivalence et il faut être vraiment juste sur le terrain où vous faire la part des choses et donner la part des responsabilités à tout le monde.
Alors, que faites-vous de cette annonce de Hervé Latour concernant justement l'après-accord? Ceux qui n'ont pas signé l'accord, il n'est pas question de prendre les armes contre ces groupes.
Et c'est cette assertion, ce passage-là d'Hervé Latour qui risquait de compliquer encore la donne sur le terrain. Mais heureusement qu'en bas, il y avait des négociations qui ont poussé la CEMA à rentrer dans le cadre du processus de paix.
Merci beaucoup, Siaka. Alors, Serge Daniel, quel degré de collaboration ou de lien on peut déterminer aujourd'hui entre les groupes terroristes et les groupes armés à revendication politique?
Il y a dans le nord du Mali, moi je dis désormais dans le Sahel, si vous voulez, dans tout ce désert-là, vous avez une locomotive. La locomotive, c'est l'insécurité. Vous avez différents wagons. Vous avez le wagon des rebelles. Vous avez le wagon des trafiquants d'armes, le wagon des terroristes, le wagon des trafiquants de drogue, les wagons de fabricants de fausses monnaies, les wagons de trafiquants de véhicules, ils font un commerce. Donc vous avez une locomotive qui est la même, c'est-à-dire le moteur, c'est l'illégalité. Parce que lorsque vous détenez des armes de manière illégale, vous êtes dans l'illégalité la plus totale. Pour lutter contre ça, moi je reste persuadé qu'il faut au moins deux choses. D'abord, puisqu'il parle au nom de la religion, puisque certains vous disent, nous c'est le djihad. Vous avez dans des pays comme la Mauritanie, où l'État a autorisé l'installation d'une radio de l'issue de l'islam, où vous avez des érudits qui viennent combattre cette thèse contre thèse. Vous dites que Dieu a dit de tuer, nous on vous démontre que c'est faux. Allah a dit de faire ça, c'est faux, les gens ils discutent. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les jeunes sont endoctrinés. On leur fait pas un lavage du cerveau, mais un surchauffage du cerveau. Donc ce qu'ils apprennent, moi j'ai vu des jeunes djihadistes pendant l'occupation dans la région de Gao, ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient. Ils ne connaissaient même pas la direction de la Mecque. Mais ceux-là se disaient djihadistes tout simplement parce qu'ils étaient endoctrinés. Mais l'autre problème, disons-le, c'est la pauvreté. Lorsque vous avez une zone qui fait, vous avez parfois une densité de 3 habitants par kilomètre carré. C'est-à-dire que sur un kilomètre carré, vous avez 3 habitants. Les jeunes n'ont rien à faire. Vous savez ce qu'un jeune, dont un jeune rêve aujourd'hui dans le nord du Mali, c'est d'avoir un véhicule. Quand il a un véhicule, un 4x4, le premier qui arrive pour le louer, il lui loue la voiture sans savoir ce qu'il va faire avec. Donc il y a ça à mon avis, mais de l'autre côté, avoir quand même une force, et là je partage la thèse de l'ancien ministre de malien de la Défense, Boubey Maïga, qui a dit clairement, lui, il pense qu'il faut nettoyer le nord du Mali. C'est-à-dire que vous avez des groupes qui peuvent revendiquer ceci, vous avez des groupes qui se disent rebelles. Mais à côté de tout cela, quand même, vous avez des trafiquants. C'est-à-dire que si vous ne nettoyez pas cette zone de trafiquants d'armes, cette zone de trafiquants de drogue, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, de manière concomitante, à mon avis, et j'en aurais terminé, il y a plusieurs choses à faire pour assainir la situation dans le nord du Mali. Il faut savoir qu'à Gao, à Kidal, à Tombouctou, moi j'ai rencontré des gens qui se sentent maliens. Il faut aussi les aider à se sentir maliens.
Alors, est-ce que vous croyez à cette réinsertion que la communauté internationale va devoir mettre en place?
C'est ce qu'on appelle le DDR, le principe de DDR. Dans toutes les crises qu'on a connues dans le monde, il y a un volet DDR. Mais le DDR, cette fois-ci du Mali, c'est pas la première fois qu'on fait une opération de DDR. Il y a eu des réinsertions. Il y a eu des réinsertions qui n'ont pas réussi. Vous savez, il y a eu des projets qu'on appelait des projets de crédit revolving. L'idée, c'était d'emprunter de l'argent à des gens qui remboursent pour que l'opération puisse se perpétuer. Ça n'a pas fonctionné. Les chefs de tribu ont pris de l'argent et ils sont partis. Je pense que cette fois-ci, il y aura un DDR, donc démobilisation, désarmement, réinsertion. Et réinsertion, mais pas comme les DDR qu'on a connu à l'époque, sinon ce serait un échec. Si vous ne préparez pas les gens à vivre ensemble dans la même armée, mais à se dire cette fois-ci, il n'est pas question qu'on soit dans la même armée et que la nuit, toi, tu prennes les fusils, que tu me tires là-dessus, que tu partes, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette confiance, vous ne créez pas un climat de confiance entre les futurs militaires qui seront ensemble, ça ne fonctionnera pas. C'est quelque chose d'extrêmement sensible, difficile. Moi, je suis persuadé que le plus difficile dans le nord du Mali sera à faire après la signature du
de la CEMA.
Et c'est ça le problème. C'est pas parce qu'on signe un accord que tout est fini.
D'accord. Merci beaucoup, Serge Daniel. Ousmane Cornéo.
Oui, je crois que par rapport au DDR, il faut vraiment faire beaucoup attention et tirer des leçons de l'expérience passée. Et je crois que l'une leçon, là où on peut aller tirer la leçon, c'est le Tchad. Si l'armée tchadienne est efficace, c'est que c'est une armée horizontale.
C'est-à-dire ?
Une armée horizontale où il n'y a pas assez d'écart entre l'homme de troupe et le général. Le général est sur le terrain en même temps que l'homme de troupe. On a vu ça ici au Mali. Le fils d'Idriss Déby était sur le terrain.
Sur le terrain.
Alors que nous avons une armée horizontale. On a des généraux qui sont sur le climatiseur et on envoie des jeunes sur le terrain. C'est-à-dire, et c'est ça l'idéologie des combattants.
Est-ce que vous faites référence également au traitement salarial?
Non, pas forcément seulement le traitement salarial. Il y a tout. C'est-à-dire qu'il faut éviter le grand écart entre le sommet et la base. Nous, on appelle ça les armées plates, les armées horizontales. Le Tchad a une armée plate horizontale. Or, nous avons une armée verticale, où on a des généraux. Et même verticale aussi, verticale à renforcer. C'est-à-dire que la base est plus haute, est plus large que le... le sommet est plus large que la base. Quand tu regardes le nombre de généraux, le nombre de colonels et de commandants, tu regardes, ils sont plus nombreux que ceux qui sont sur le terrain. Veut dire que c'est une pyramide qui repose sur le sommet. Elle est instable. Or, si l'armée, elle est plate, et c'est ça que veulent. Quand, par exemple, les combattants veulent être intégrés, ils souhaiteraient avoir un haut grade. En réalité, quand on lit dans leur aspiration, c'est qu'ils ne veulent pas se voir sur le terrain et puis on va voir alors qu'ils sont ils sont plus efficaces parce qu'en fait ils sont plus efficaces que le général qui va se dormir sous ce climatiseur qu'on essaie au moins d'avoir un
pas un grand écart de conditions de vie, de conditions de travail, de tout, tout, entre le sommet et la base. Là, nous avons une armée plate. Le Tchad a une armée plate, qu'on appelle horizontale. Or, ici, nous avons une armée horizontale.
Verticale.
Verticale. Mmh. Verticale aussi, pyramidale et reposant sur le sommet. Mmh. Donc, instable.
Merci beaucoup, Ousmane Cornio. Alors, s'il y a qu'à ajouter quelque chose, très
oui,
rapidement.
Et sur cette question-là, je crois avoir dit ici, sur ce même plateau, que ce n'est pas parce qu'on a signé l'accord que demain on aura la paix à la porte. Ce n'est pas forcément ça. Et l'une des difficultés de la mise en œuvre de cet accord-là, ça va être également le programme désarmement et réinsertion. Mmh. Au-delà de ce que Seri a dit tout à l'heure sur la confiance qu'il faut régner entre les hommes d'une même équipe, il y a un autre aspect qu'il faut souligner.
Okay.
La question de la justice, par exemple. Je crois que aujourd'hui, l'erreur qu'on va commettre, et je suis fortement persuadé, c'est qu'on va, sacrifier la justice au nom de la politique, au nom d'une paix. C'est-à-dire, tous ceux qui ont du sang dans la main, on va les faire intégrer dans l'armée, eh bien, on va essayer de trouver une solution au problème comme ça. Or, quand nous revenons sur l'accord, il est bien dit que les cas de désarmement sera fait, et désarmement, démobilisation et réinsertion, se fera cas par cas, c'est-à-dire qu'on va essayer d'analyser les situations de chaque combattant avant ce qui ne va pas être fait. Mmh. Ça ne va pas être dans la pratique, à mon avis, c'est impossible. Et donc, l'erreur qui a été commise la fois derrière, à mon avis, on se dirige tout droit vers la même erreur.
D'accord. Alors, vous avez épuisé votre temps de parole, normalement dédié à une question que je vais poser à Serge Daniel. Est-ce que la signature de l'ensemble des parties de ce conflit va affaiblir les groupes djihadistes, Serge?
Oui, je pense que oui. Je pense que oui, parce que pour la première fois quand même, et c'est là où je rejoins quand même un tout petit peu, c'est que on va, ça va moralement, que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans le nord du Mali. Si vous signez le 20, et j'espère qu'ils vont signer, ça va, vous allez voir, les groupes djihadistes vont rester toujours à Kidal, parce qu'ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent, ils s'en vont, ils font des incursions, ils repartent, ils vont se dire, attention, probablement il y a quelque chose qui se dessine. Mais ça ne va pas suffire pour les combattre. Pour les combattre, je reste persuadé, ce qui a échoué dans le nord du Mali, il va avoir une nouvelle résolution bientôt. J'espère qu'ils vont donner un mandat plus robuste à la MINUSMA. Le médicament des djihadistes, c'est l'avion. Si vous n'avez pas des avions de combat, si vous n'avez pas des hélicoptères, si vous n'avez pas le renseignement, vous ne pouvez pas les combattre. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que quand Serval est parti et que la MINUSMA a pris le relais, la MINUSMA n'avait pas à l'époque 5 avions de combat pour combattre les gens. Et eux, ils sont arrivés en disant, nous sommes venus faire de l'interposition entre les rebelles Touareg et l'armée malienne, ce qui était absurde, absolument absurde, parce que sur le terrain, on avait des islamistes, on n'avait pas tué 5 chefs islamistes lors de la prise du contrôle du Nord par l'opération Serval, si vous voulez. Donc ça va être un début de quelque chose, mais il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on aille de l'avant, mais qu'on soit également ferme, sur, par exemple, dans une zone délimitée, ferme avec tous les porteurs d'armes. C'est-à-dire que si vous portez des armes, vous êtes un porteur d'armes dans une zone où vous ne devez pas porter des armes, il faut qu'on puisse vous désarmer.
Alors l'impact de cet accord, la signature sur les groupes djihadistes, Ousmane Cornio?
Oui, moi j'y renverse. Hein. Moi j'y renverse là, parce que tout le monde parle de groupes djihadistes, de leur intégration et de leur assainissement. Moi je crois que ce qu'il faut assainir aussi, c'est l'armée malienne. Quand il rentre dans une famille où le père de famille est militaire, le premier fils est militaire, le deuxième fils est militaire, le troisième fils est militaire, il ne peut pas y avoir d'efficacité sur le terrain. Quand toute la famille va en guerre, il ne peut pas y avoir d'efficacité. C'est-à-dire que moi, je serais d'accord. Si j'étais ministre de la Défense aujourd'hui, je demanderais à ce qu'on fasse un DDR au niveau de l'armée malienne.
Mais heureusement que vous n'êtes pas ministre.
Ainsi s'achève cette émission. Merci à vous, messieurs, d'avoir été là pour l'animer. Serge Daniel, journaliste écrivain. Siaka Tchébile Doumbia, analyste politique. Ousmane Cornio, expert des questions de sécurité. Je suis Famoussa Sidibé. Nouhoum Diré était à la technique. Ousmane Djadje Touré a réalisé cette émission. Salim Djouara était à la technique vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour un autre débat. Bonsoir.
Le grand dialogue.
Sigika Foba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Haloud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Studio Tamani, merci d'avoir suivi nos programmes de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain sur les antennes de notre radio partenaire.
Studio Tamani, on est chez Angala Silin Labenin Koso. Au Kambeshini, nous avons radio sur Kilenou Sanfe.
Studio Tamani gowar fondo goy suba irge chorku bay ira radio golagande. Studio Tamani.